Snapchat.
En vrai, Snap, c'est bien parce qu'on peut faire les flammes. Parce que je sais pas, tu passes le plus... c'est comme TikTok, tu passes le plus clair de ton temps sur Snap. Genre, c'est comme si t'avais rien à faire de ta vie.
Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Vous aimez vous cultiver, mais dans la joie et la bonne humeur, bercé par le rire communicatif de Manon Mariani. Vous avez sonné à la bonne porte, on s'en lasse pas. Chaque après-midi, ici, on zoome sur un mot, une mode, un phénomène de notre époque. Et aujourd'hui, tout ça à la fois, puisqu'on va se pencher sur celui qui reste le réseau social préféré des jeunes de 14 ans. 14 ans, justement, après sa création, Zoom sur Snapchat. C'est, je vous l'avoue, le réseau social que j'utilise le plus. J'adore,
bien sûr.
J'adore y envoyer à Manon et Quentin des photos de moi avec un filtre fandard, comme le filtre chat qui pleure de rire, le filtre lunettes de soleil ou le filtre sombrero mexicain pour taquiner Manon sur ses prochaines vacances à Guadalajara avec ce message taquin: désolé, mais s'il y a rançon, on payera pas.
Oh bah, ouais. Merci, ouais, je comptais sur vous.
Je peux passer des heures sur Snap à envoyer des selfies avec filtre à Manon et Quentin, voir si j'ai trop bu, c'est vrai, quelques dick pics sans filtre à Pierre Courade. Car oui, ça ne prête pas à conséquence, puisque c'est le même principe, c'est le principe de Snapchat. Les photos qu'on envoie sont éphémères. Alors, Snapchat a-t-il changé en 14 ans?
Si oui,
je sais pas pourquoi.
Éphémère.
Oui, je sais pas pourquoi. Pierre Belmar s'est invité en moi, si j'ose dire.
Ah oui, oh là.
Paix à son âme, paix à son âme, Pierre, effectivement. Alors, bref. Snapchat a-t-il changé en 14 ans? Si oui, qu'est-il devenu? Pourquoi les 13-25 ans, plus moi, le plébiscite-t-il toujours autant? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Sophie Géhel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, spécialiste des enjeux éthiques et sociétaux des industries médiatiques. Vous avez écrit « L'adolescence au cœur de l'économie numérique », c'était en 2022, et plus récemment un article qui nous a particulièrement interpellé ici, « Dans les flammes de Snapchat, le travail émotionnel des adolescents ». Ça s'est paru dans la Revue française des sciences de l'information et de la communication. Vous allez donc nous expliquer ce qu'est devenu Snapchat, ce que nos ados y font, voire même, comme dirait Cyril, ce qu'ils y trafiquent. Juste le temps de vous présenter deux journalistes tout juste sortis de l'adolescence. En tout cas, ils font bien semblant. Ils sont jeunes, enfin, plus vraiment. Ils sont libres, enfin, si tant est qu'on puisse être libre sous la férule de Cyril Lacarrière. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
À vos côtés, Sophie, si l'été prochain sur les réseaux, vous voyez passer des photos d'elle à Tulum avec un gros sombrero, ça ne sera pas un filtre Snapchat, mais un vrai sombrero. Sa technique, je cite, pour faire couleur locale et ne pas être kidnappé par les gangs. Oh. Une astuce futée qui, effectivement, devrait nous éviter pas mal de soucis. Allez Manon, plus que 65 émissions avant les grandes vacances. Ouais.
65.
Soyez 65. Ah, évidemment. Non, non. Ah,
non,
fois deux.
Non, Quentin.
On a deux heures.
Faut pas calculer.
C'est qu'une seule et même émission, Quentin.
Oui, oui.
Bon. Vous n'êtes pas payé double.
Ouais. Bon. Non, t'as pas de coup, justement.
Chaque après-midi, Manon, vous nous présentez l'autre personne à suivre sur le sujet.
L'influenceur français le plus suivi sur Snapchat, vous ne connaissez sûrement pas son nom, et pourtant, il a plus de 11 millions d'abonnés, c'est 3 millions de plus qu'Inoxtag sur YouTube.
Énorme. Lui, je peux vous dire qu'il en a envoyé des nudes sur Snapchat. Essentiellement...
Snapchat.
Essentiellement depuis les toilettes du Bayocos, où, grisé par la bonne musique diffusée dans le prestigieux établissement Fleuron des Nuits Normandes, il se laissait souvent aller à quelques snaps un peu osés, comme disaient les jeunes alençonnaises de l'époque, heureusement que ça s'efface. Quentin, tout
c'est
ça...
Pas, c'est pas exactement ce que
tout
disait,
ça... Oh là là. Mégalomanie. Ah. Quentin, tout ça est loin aujourd'hui, vous êtes rangé des voitures, c'est en tout cas la version officielle que vous m'avez demandé de maintenir à l'antenne,
oui.
Je fais ce que je peux.
Oui.
Alors, parlons plutôt des passants. Vous avez croisé beaucoup de Snapchatteurs, comme on les appelle.
Je crois que personne dit ça. Snapchatteurs, je suis pas certain. Je me suis posté devant un lycée pour voir comment les jeunes utilisent l'appli, pourquoi, quand, comment, avec qui. Snapchat, on en pense quoi dans la rue? Vos réactions dans la prochaine demi-heure.
Mais Mathieu, où vas-tu puiser cette imagination sans borne qui nous éclabousse chaque après-midi vers 16h30 dans le Zoom Zoom Test? Écoutez, je ne sais pas, chers auditeurs, je ne sais pas, mais aujourd'hui, mon inventivité va encore vous éclabousser puisqu'on fera un quiz sur les réseaux sociaux. Oui, c'est bluffant, c'est bluffant. Juste avant 17h, le tout aussi bluffant GC nous rejoindra. Mais d'abord, ouvrons tout de suite notre appli Snapchat. C'est le petit fantôme jaune, Cyril, je vous le
oui,
signale.
Monsieur.
Déjà, Sophie Géhel, c'est quoi la principale force de Snapchat? Parce que c'est vrai qu'en préparant l'émission, j'ai réalisé que ça faisait 14 ans que ça existait. 14 ans, être au top pendant 14 ans, c'est pas facile.
Non, ils ont plutôt progressé depuis 14 ans. Hein. Ils se sont installés durablement. Donc effectivement, ils font partie du trio de tête des réseaux sociaux, du portefeuille de réseaux sociaux qu'ont les adolescents. Moi, je les étudie en particulier sur un créneau 15-17 ans. Ouais. Et je vois que ça, chaque année, le pourcentage de filles augmente. On a 92% de filles qui, à 15-16 ans, ont un compte Snapchat.
Ah, c'est plus féminin que masculin, Snapchat ?
C'est un petit peu plus féminin que masculin parce que c'est la dimension échange de photos qui, de façon générale, tous les réseaux sociaux qui valorisent. C'est beaucoup plus visible sur Pinterest, par exemple, la prépondérance des filles. Tout ce qui valorise l'échange de photos est plutôt féminin dans ses usages. Alors, qu'est-ce qui caractérise Snapchat ? Depuis le début, c'est l'idée que sur Snapchat, on peut parler de choses intimes, justement parce que
c'est
ça s'efface.
C'est
donc, vous avez raison de mettre l'accent sur l'éphémère. C'est ça qui a attiré les jeunes très rapidement sur le réseau. Et par différence avec Facebook, en fait. La grande bataille, c'est entre Snapchat et Facebook.
On va revenir sur cette guéguerre. Il vient à l'instant de découvrir que le logo de Snapchat était un petit fantôme jaune de son temps pour draguer.
Il est blanc.
C'est jaune le logo.
Soyons précis.
Écoutez, ne pinaillez pas et surtout ne salopez pas mes lancements, Quentin. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir me payer mes droits d'auteur de la SACEM et là, je peux vous dire que vous pouvez renoncer à votre salaire. De son temps, pour draguer, c'était beaucoup plus compliqué et risqué puisque quand vous envoyez une photo coquine depuis votre boîte caramel, elle ne s'effaçait pas instantanément. Et après, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, Jocelyne Tapineau, assistante de direction qui nous écoute, elle est en retraite évidemment, à Pontault-Combault, dispose encore dans son computer de quelques clichés assez gratinés de notre Cyrilou. Bon, bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour Jocelyne.
Alors racontez-nous.
Il est possible que même avec Snapchat, les photos soient encore dans l'ordinateur de
comment
madame.
Comment ça, qu'est-ce que vous nous dites? Attendez, comment c'est possible ça?
Parce qu'on screen, parce que dès que Snapchat est arrivé, mais vraiment la première année, moi j'ai fait des entretiens dès la première année, et les gamins déjà connaissaient à la fois le fait que quand on screen, l'application vous déclare qu'on a screené, c'est-à-dire qu'on a capté l'image qui a été diffusée pour être soi-disant éphémère, mais en plus il y avait des applications non autorisées qui tout de suite ont été aussi connues par les adolescents.
Merci pour cette précision éclairante et importante. Mais je présentais Cyril Lacarrière. Et Cyril,
vous savez, place à l'invité parfois, c'est bien.
Mais vous avez raison, j'ai bien aimé ce moment de radio d'ailleurs. Ouais. C'est le moment
c'était
néanmoins
moment
du d'où ça sort. Je vous pose la question rituelle, Cyril. Snapchat, d'où ça sort?
Eh bien, j'aurais pu vous raconter in extenso d'où vient Snapchat. Mais je ne vais pas le faire. Ah. Car j'ai mieux. Une source infaillible qui connaît Snapchat sur le bout des doigts. Une personne qui peut tout vous raconter dans les moindres détails, mais elle a posé une condition, l'anonymat. Impossible de prendre le risque d'être grillé dans le métier. Alors, cher X, dites-nous, comment est née l'idée de ce réseau social?
Evan Spiegel, Bobby Murphy et Reggie Brown, la jeune vingtaine, vont lancer leur application appelée Peekaboo. Elle a un concept bien spécifique. Les utilisateurs ne peuvent que s'envoyer des photos éphémères. 10 secondes de visionnage et boum, elle s'efface comme si elle n'avait jamais existé. Les trois étudiants sont partis du constat que tout restait à jamais sur Internet et qu'ils n'avaient pas forcément envie que leurs photos de soirées alcoolisées viennent les hanter des années plus tard.
Ça s'écoute bien, c'est un confort d'écoute qui justifie la blague. Parce que
Très beau phrasé, cette personne.
Ah oui, c'est intéressant. C'est
quelqu'un qui utilise le mot iconique ou pas?
Parfois, malheureusement. Ce Peekaboo fait un flop, un problème de nombre notamment. Et c'est comme ça que Snapchat va faire son apparition. X, racontez-nous comment naît le début de l'effervescence.
L'application commence surtout à cartonner du côté des jeunes. La majorité des utilisateurs a entre 13 et 24 ans. Et c'est une cible de choix, car ce sont eux les plus connectés. Ce sont donc grâce à eux que l'entreprise espère gagner de l'argent avec de la publicité. Et c'est à partir de début 2012 que Snap connaît une ascension fulgurante. En un an, plus de 20 millions de photos sont partagées chaque jour sur l'application.
20 millions de photos chaque jour. Un grand merci à cette chère X de nous avoir fourni cet éclairage.
Qui est passé dans C'est mon choix, peut-être, non?
Et de... et dans Ça se discute à l'époque. Et de nous avoir fait comprendre que tout n'est pas rose dans le monde de Snapchat.
Cyril.
C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Ouais.
Alors, avec Manon, Quentin et notre réalisateur Ghislain Fontana, qui mériterait de partir à Cayenne pendant un bon moment pour avoir osé diffuser sur la première radio de France une qualité d'enregistrement de ce niveau-là, je crois qu'on est d'accord, cette chronique mérite un jingle de sortie.
Ce d'où ça sort, un vrai trésor, on en veut encore.
Bon, Sophie Gel, sachez que je présente toutes mes excuses pour ce moment qu'on vient de vivre.
Je suis pas trop d'accord, on peut quand même rendre à César ce qui est à César en disant que c'était ma chronique.
Ah ben c'est vous qui vouliez témoigner sous X.
Oui, oh, oui,
quelle surprise.
On tombe de l'armoire. C'est fou,
vraiment étonnant. Sophie, on ne part plus aujourd'hui que de TikTok et de Je rembobine évidemment. 850 millions d'utilisateurs, c'est le 9e réseau social du monde, Snapchat. C'est le premier chez les ados, mais seulement le 9e dans le monde.
Oui, Snapchat, à la différence de Facebook, Facebook a commencé par cibler les ados, mais en fait, Snapchat est resté sur les ados. Et Facebook a assez vite changé sa stratégie en disant, bah, en fait, c'est Connect the World, je commence par les ados, mais ce qui m'intéresse, c'est le monde. Et Snapchat s'est assez vite vanté, justement en 2012, la date qui était citée tout à l'heure, s'est vanté auprès des actionnaires, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre de ces grandes plateformes. Hein. C'est d'abord la spéculation sur ce qu'elles peuvent gagner. Et donc, en 2012, ils ont commencé à dépasser Facebook sur les adolescents. Et donc c'est vrai que c'est leur fer de lance. Mais ensuite, comme toutes les autres plateformes, l'intérêt des adolescents, c'est d'attirer d'autres personnes. D'abord parce que les adolescents vont rester fidèles à la marque. Mmh. Et puis ensuite, parce qu'ils vont aussi rendre la marque attirante, attractive. Hein. Et donc, aujourd'hui, on a 30... je crois que sur Snapchat, il y a un observatoire de l'audience des plateformes numériques qui est diffusée publiée par l'ARCOM. On est à 30 et quelques pourcents d'adolescents, donc c'est la plateforme qui est la plus jeune, le réseau social qui est le plus jeune, qui a le plus gros... Oui, mais il y a quand même 25% de plus de 50 ans. Et,
ah, de plus de 50 ans
oui, bien sûr.
Rien n'est perdu.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Zoom cet après-midi sur Snapchat, le réseau préféré des jeunes, avec Sophie Gel, spécialiste des enjeux éthiques et sociétaux dans les industries médiatiques. Sophie, vous avez écrit un article pour la revue française des sciences de l'information et de la communication, je le disais tout à l'heure, il s'intitule « Dans les flammes de Snapchat, le travail émotionnel des adolescents ». C'est quoi ces flammes sur Snapchat ?
Les flammes, c'est un dispositif très ingénieux qu'a inventé l'entreprise Snapchat, qui permet de fidéliser et d'imposer en fait aux personnes, aux utilisateurs, de réenvoyer des photographies chaque jour à leur contact. Donc, et l'entreprise les gratifie. Donc c'est une sorte de cadeau purement symbolique qui est fait par l'entreprise et qui va dénombrer le nombre de fois où on a envoyé une photo et qui se met en route assez rapidement de façon automatique en fait.
On peut voir ça comme un truc génial, c'est aussi un truc un peu vicieux pour rendre les gens addicts à Snapchat.
En tout cas, pour les obliger à revenir sur la plateforme, pour les obliger à penser toute la journée au fait qu'il va falloir envoyer une photo. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de travail émotionnel, c'est de voir à quel point, pour les adolescents, c'est une tracasserie, en fait. C'est-à-dire que les amis attendent qu'on envoie la photo. Bah oui, on est au cœur du réseau social, donc du réseau d'amis. J'ai même eu des témoignages, d'ailleurs, de personnes qui n'étaient pas des adolescents, qui faisaient les flammes aussi avec leurs contacts. Donc, c'est une façon de s'insérer à l'intérieur des relations fortes, en fait, des personnes, et puis de les inciter donc à ouvrir l'application et à l'utiliser et à envoyer une photo donc chaque jour.
Manon.
Et Snapchat, faut quand même le rappeler, c'est eux qui ont inventé la fonction story. Aussi, grâce à ça, ils ont aussi fidélisé un public.
Oui, oui, ils ont énormément de dispositifs, enfin, de fonctionnalités qui permettent de la fidélisation. Il y a la story, il y a aussi le vocal, plus récemment. Donc, ils ont inventé le fait qu'on puisse laisser un message de façon orale. Ils ont inventé aussi le fait que ce message peut être aussi retranscrit. Donc, à la fois, on peut écouter l'ami, mais l'ami n'a pas eu le temps de préférer aller plus vite. On est vraiment sur un dispositif qui vise l'impatience adolescente. Donc, aller vite, c'est prendre une photo. Moi, j'ai eu des premiers entretiens où les adolescents, c'était en 2016 à peu près, m'expliquaient qu'ils s'envoyaient beaucoup de photos. J'ai dit, mais quel est le genre de photos que vous envoyez tous les jours? Ça peut être des chaussures. Alors, il y avait beaucoup de photos de chaussures. Ce qui a aussi pas mal d'avantages, c'est que du coup, ça permettait aussi aux marques de repérer...
Ah bah oui. On verra notre émission de demain sur les sneakers addicts.
Ils mettent des textes aussi sur leurs photos. C'est ça la différence des photos Snapchat.
Pas toujours, voilà, pas toujours. En tout cas, le dispositif des flammes ne nécessite pas de mettre une légende. Et quand ça devient extrêmement... Enfin, je veux dire qu'on n'a pas le temps, mais qu'il faut absolument ne pas perdre les flammes, ce capital purement symbolique attribué gracieusement par la plateforme, eh bien, ils s'envoient aussi, ils peuvent s'envoyer des photos du mur, des photos de noir, des photos de rien, en fait. Et du coup, c'est assez ambivalent comme dispositif.
Il y a une expression assez forte qui ressort de votre article consacré à Snapchat, c'est « industrialisation des émotions ». En fait, l'entreprise Snapchat, elle joue sur les codes de l'amitié pour monétiser l'amitié. Enfin, c'est un peu dingue de dire ça. Mais...
Non, c'est pas dingue. C'est ce sur quoi repose en fait Facebook aussi. Hein. Je veux dire, on est sur cette instrumentalisation des émotions. On a des auteurs comme Eva Illouz qui pensent que c'est tout le capitalisme qui est embarqué en réalité dans cette instrumentalisation, y compris quand on vous vend des sodas ou autre chose. Sur Snapchat, c'est très perfectionné parce qu'il y a tout le travail de mise en scène de soi. Il y a tout à l'heure, vous évoquer les filtres qui font partie aussi des fonctionnalités très attractives.
J'ai évoqué pour rire, ça existe toujours, les filtres sur Snapchat, ça fait partie toujours des spécificités de l'application.
Bien sûr, et ça fait partie aussi d'une stratégie, parce que derrière le côté gamification, donc tout est jeu, c'est pour ça tout est jeu sur Snapchat, c'était aussi la différence de départ avec Facebook, c'est-à-dire sur Facebook on est sérieux, on se montre sur son meilleur jour.
C'est la cour de récré Snapchat.
Et Snapchat c'est l'intime, c'est plus intime encore que la cour de récré, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'on a fait tomber, moi on m'a raconté, voilà, bah j'ai fait tout un plat de spaghettis magnifique, mais j'ai tout jeté par terre, bah je fais un snap pour le partager. Alors que, voilà, donc cette gamification, elle permet en réalité, comme stratégie de fond, comme stratégie réelle pour l'entreprise, de développer des fonctionnalités de reconnaissance faciale. Et ils sont très, voilà, très en avance, ils ont été très en avance là-dessus, et les filtres, ça permet ça, c'est-à-dire où sont les yeux, où est la bouche et le nez.
Ah oui, j'ai
ça a l'air évident comme ça, mais
et ça nous habitue. C'est en partie à cause de Snapchat qu'en 2012, il avait choisi, 10 ans après Lionel Jospin, de se retirer de l'industrie du disque. Le deuxième et dernier single de son groupe Intérieur Nuit, la reprise rock de Boule de Flipper, Corinne Charby, n'ayant jamais franchi la barre des 100 vues sur YouTube, mais surtout n'ayant sur son compte Snap que 3 amis avec une petite flamme, dont Polo. Alors forcément, vous avez pris la décision, Quentin, lâcher le micro, pour en reprendre tout de suite un autre derrière, celui de micro-trotteur. Alors, Snapchat, les gens y connaissent bien.
J'avais envie de commencer par Béatrice, cette maman qui découvre le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Snapchat? Je sais pas ce que c'est.
C'est une application.
Oh oui. J'entends parler, oui, mes enfants. Je dirais c'est la mode, c'est la jeunesse, c'est le temps de maintenant, on n'y peut rien. Nous les parents, on fait tout ce qu'on peut, mais on n'a pas souvent le contrôle. Hein. Faut faire doucement, parce qu'après, ils se braquent. Voilà, donc quand tu essaies de comprendre... Et puis les téléphones sont codifiés de toute façon, on n'a pas accès à leur téléphone.
Et voilà, Béatrice, comme plein de parents qui nous écoutent, est un peu perdue. Alors je vais aller demander aux ados de nous raconter pourquoi et comment ils utilisent Snapchat. Je tombe sur ces deux copines qui font un playback. Elles chantent sur un son en se filmant.
Il est tellement gentil, il me fait me sentir comme quelqu'un spécial. Mais bon, je veux pas qu'on dise de moi que je suis une salope, ouais.
Ouais
mais bon, nique la vie des autres, donc
je m'en danse, I guess.
Bonjour.
Bonjour.
On chante Laylo.
Laylo, qui est un rappeur, hein, pour qu'on ne perde personne. Que pense-t-elle de...
Snapchat. En vrai, Snap, c'est bien parce qu'on peut faire les flammes. Les flammes, c'est un truc, en gros, bah faut envoyer un snap par jour et t'as des flammes. Et genre, du coup, ça fait, par exemple, avec Suzanne, je pense, on a genre 140 flammes, truc dans le genre, parce que ça fait 140 jours, du coup, qu'on s'envoie des snaps tous les jours.
J'avoue découvrir stupéfait ce truc des flammes que j'avais plus ou moins identifié en partageant sur TikTok des vidéos d'archives du président Chirac avec mon meilleur ami Julien, chacun ses kinks, et où TikTok me conseillait de ne surtout pas briser la chaîne avec Julien. Ça joue sur l'affect et sur l'importance de la relation. Marwan, lui, est étudiant en bachelor marketing digital. Pour lui, l'interface, c'est l'interface qui fait le succès de Snapchat.
Quand tu arrives sur l'application, tu as directement l'appareil photo qui s'ouvre. Donc la première page, c'est l'appareil photo. Donc directement, soit tu vois ta tête, soit tu vois, tu filmes devant toi. Tu as juste à glisser sur la gauche et tu accèdes aussi à tous tes amis, toutes les conversations, etc. Et sur la droite, tu as tout ce qui est story. Donc c'est vraiment ultra simple d'utilisation, comparé à Instagram, etc. Bah, tu peux partager ta localisation à tes amis. Et aussi avoir leur localisation en échange.
Bah t'es tracé, quoi.
T'es tracé, exactement.
Ouais, je découvre la map monde, la Snap Map, où l'on voit les bitmoji des contacts de Marwan. On peut même voir les copains à l'étranger. Snapchat, c'est aussi l'intelligence artificielle.
L'IA, il y a l'IA sur Snap, ouais. C'est un peu comme ChatGPT, mais c'est, on dirait que tu t'adresses directement à une personne. Parce que tu peux personnaliser son bitmoji, etc. Et c'est ultra pratique. Pourquoi ? Parce que c'est comme si tu t'adresses à une personne, mais qui sait tout.
À qui sait tout ? Je lui demande qu'on teste son IA.
C'est parti. Vas-y, tu sors ton téléphone, on ouvre Snap.
Première appli.
Première appli. Et du coup, voilà, tu peux lui, tu lui demandes ce que tu veux, il va te répondre.
Alors vas-y, on va essayer. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander ? Demande-lui de t'expliquer ce qu'est l'émission Zoom Zoom Zen.
Zoom Zoom Zen sur France Inter. L'émission Zoom Zoom Zen sur France Inter est un programme qui se concentre sur le bien-être et la relaxation. Animée par des experts, elle propose des conseils, des techniques de méditation, de respiration et de développement personnel pour aider les auditeurs à se détendre et à mieux gérer le stress au quotidien.
Ah, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça. Ah ouais.
Alors c'est pas du tout ça, et non, alors je sais pas si notre invité, mais ça je peux vous dire qu'ils ont pas leur intelligence artificielle, ils ont ChatGPT, parce que c'est ce que répond, c'est la réponse type de ChatGPT sur notre émission, en tout cas il y a un an c'était ça.
Méfiez-vous de l'IA, c'est pas encore au point, preuve en est, Cyril ne sait même pas à quoi ressemble un tapis de yoga. Il est parti en vélo, en rentre au vélo l'an dernier pour dormir dessus, bonjour les lombaires. Gilo et sa copine réagissent, Snapchat c'est envahissant.
Parce que je sais pas, c'est comme TikTok, tu passes le plus clair de ton temps sur Snap, genre c'est comme si t'avais rien à faire de ta vie.
Le problème avec cette application. J'ai aussi subi un peu d'harcèlement, du cyberharcèlement.
Comment ? Tu peux nous en parler un peu ?
Il y avait un groupe aussi Snapchat où ça m'insultait vraiment, ça ressortait un peu ma tête. Parce que c'était juste des photos de ma tête un peu ficha, on va dire. Et au début, je m'en fiche, mais après, j'ai dû en parler quand même à mes parents parce que je me suis dit, voilà.
Hey, Snapchat, c'est les moqueries de la cour de récré qui se poursuivent le soir sur l'application et sans toi. Et encore, on parle de photos de son visage parce qu'on va pas se mentir. Le piège de cette application, c'est autre chose.
Il y a quelque chose d'assez intime. Surtout quand les deux bitmojis sont dans la conversation, ça part vite.
Une photo, une vidéo.
Et beaucoup de ces snaps peuvent être à caractère sexuel
ou intime, on le dit.
Vous l'avez fait ?
Bah,
oui.
Non, bien sûr. Je demande donc à Pierre, Aaron et Philippe de me dire la vérité.
C'est la crainte. En fait, moi, je l'ai fait une fois. En fait, sur le moment, j'étais dans un échange avec une fille. Elle m'en envoyait. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais est-ce que t'es en érection ? Je lui dis, bah oui. Bon, elle me dit qu'elle veut voir. Moi, j'ai envie de voir encore d'autres snaps. Dans la foulée, j'envoie et ça s'est bien passé pour moi. Normalement, on est alerté quand il y a une capture d'écran du chat, mais il y a des techniques. Il y a toujours, c'est ça. Ce qui fait peur derrière, c'est le porn revenge.
Ou la fille, elle est énervée et là, elle balance la photo intime, ou le garçon balance la photo intime à ses copains et ça crée des réputations et ça détruit des vies. Hein, ça.
Et si on est tous dans le même lycée, ça tourne vite et ça fait peur.
Elle est complète cette appli, de l'interface à la facilité d'utilisation, l'ami IA, la localisation, mais elle est vicieuse. Elle peut même s'avérer dangereuse et destructrice. Finalement, à l'image de son logo, les fantômes, à la base, ça fait peur.
Sophie Gell, alors déjà, j'aimerais revenir sur un point très précis. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces réactions, mais est-ce qu'on est alerté vraiment quand quelqu'un fait des captures d'écran du snap qu'on a envoyé ?
Ça dépend ce qu'on utilise pour faire des captures d'écran. Oui, si c'est sur l'application, on est prévenu, mais si on utilise autre...
Voilà. Ah oui, par exemple, un autre portable, etc. Oui, effectivement, là, il n'y a aucun moyen de le détecter. Qu'est-ce qui vous a étonné dans ces... Est-ce que d'ailleurs quelque chose vous a étonné, vu que vous connaissez jeunes et Snap
Non, je trouve que c'était assez ressemblant aux entretiens, enfin, aux informations que je peux retenir moi aussi, que je peux entendre moi aussi de la part d'adolescents, c'est-à-dire à la fois le fait que ça fait partie des relations, donc il y a un côté sympa. Il est difficile pour les adolescents, même jusqu'à 15-16 ans. Alors, je ne sais pas quel était l'âge de ceux que vous avez rencontrés.
Entre 15 et 18 ans.
Oui, voilà. C'est quand même frappant de voir la difficulté à prendre de la distance par rapport à cette rémunération symbolique qui est quand même absolument, qui paraît quand même très vide, à savoir d'avoir un chiffre qui vient mesurer l'amitié entre deux personnes par le nombre d'échanges de photos qui peuvent être de chaussures, de fond noir, de n'importe
peut-être
quoi.
Peut-être qu'ils prennent ça juste comme un jeu, ils ont peut-être la distance,
Oui, mais quand même, ce qui m'a frappé et qu'on n'a pas entendu là, c'est que ça peut aussi déclencher des jalousies, ça peut aussi déclencher des brouilles, c'est-à-dire des amis qui vont dire...
On n'a pas assez de flammes.
Bah, c'est-à-dire, surtout, on a cassé les flammes. C'est-à-dire qu'un jour, on n'a pas le temps ou on en a un peu assez, et puis on se dit, bon, on est quand même un peu au-dessus de ça. C'est-à-dire, ce n'est pas la plateforme qui va décider si je suis amie ou pas avec quelqu'un.
Non.
Et donc, je peux arrêter d'envoyer cette photo qui n'est pas forcément...
Mais au-delà des flammes, on l'a entendu dans le micro-trottoir, ça parle de nudes, ça parle de cyberharcèlement. On est quand même sur une application où la modération n'existe quasiment pas.
Alors la modération, j'ai regardé tout à l'heure sur le site, hein, ce que dit Snapchat, c'est qu'elle modère les stories des personnes qui ne sont pas abonnées. Donc ça veut dire que la modération, elle est effectuée sur une toute petite partie des messages. Il faut quand même savoir qu'il y a le 3018, qui est un service accessible à tous hein, en France, qui permet d'agir si on a une photo qui a été récupérée.
C'est le dispositif dit enfance.
Voilà, c'est le dispositif dit enfance. Je pense que c'est bien de rappeler qu'il y a ça qui existe pour les personnes qui se sentent en difficulté. Mais la SnapMap, c'est aussi un énorme dispositif qui peut favoriser et le harcèlement et le fait de retrouver quelqu'un.
Et c'est ce qui me choque, parce que quand on entend les parents, il ne faudrait pas qu'ils se penchent un peu plus sur la question. Je ne veux vraiment pas les culpabiliser, mais télécharger l'appli, voir l'interface, l'utiliser un peu, déjà on pourrait voir les failles, les dangers. Mmh. Là, ils passent pour des boomers qui ne comprennent rien, alors qu'en fait, ils ont un smartphone dans la poche et ils pourraient s'investir aussi de ça.
Oui, les parents peuvent s'investir. Ensuite, c'est compliqué. Ils ont à décider, je pense, avec leur enfant, surtout à partir de quel âge l'enfant est suffisamment raisonnable pour pouvoir utiliser l'application. Donc ça, officiellement, c'est 13 ans pour Snapchat. Ça peut être un peu plus tôt. Moi, ce que je vois dans les réponses à notre questionnaire, c'est que ça peut arriver beaucoup plus tôt. Hein. Snapchat peut arriver vers 11-12 ans. Et qu'à ce moment-là, c'est extrêmement compliqué. Alors, la responsabilité des parents, c'est pas forcément non plus de fliquer. Enfin, je veux dire, la mode aujourd'hui, c'est de dire les parents peuvent tout contrôler à distance, géolocaliser leur enfant, etc. Et cette mode de la géolocalisation, donc du contrôle, d'une surveillance extrêmement intrusive de la part des parents, je pense qu'elle nuit aussi au fait qu'on se rend pas compte que la géolocalisation, même par les amis ou par les parents, c'est quelque chose qui d'abord met en danger l'enfant, la personne qui est géolocalisée. Et ensuite que psychologiquement, c'est quand même particulièrement lourd, intrusif.
Il y a quelques années, c'était dans Black Mirror, mais maintenant, c'est la réalité.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Alors qu'on zoome cet après-midi sur le côté obscur de Snapchat, le quiz sera consacré au secret des réseaux sociaux. Pour une fois, Quentin, vous aurez une excuse valable de vous faire humilier par Manon, qui, avec ce sujet, nage dans sa zone de confort.
Je vais encore perdre, quand
telle
vous
Cyril
dites ça.
La carrière dans le sauna du club Chupito Caliente à Ibiza. Mais croyez en votre bonne étoile, Quentin, il y aura bien un jour où nous traiterons de la mode dans l'univers des sports mécaniques, et vous pourrez alors ce jour-là montrer à la face du monde ébahi toute la palette de votre gai savoir. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les réseaux sociaux, sans jamais oser le demander. C'est maintenant, pardon ?
Je parle plus pendant les lancements.
Oui, je vois ça, vous abstenez. Oui. Mais vous m'avez quand même coupé.
Ah oui, du coup.
Donc vous démarrez le quiz avec...
Un point de retard.
Un point de pénalité, jouons au Zoom Zoom Test. Et on commence au Moyen-Âge, 1997. Lionel Jospin vient d'être nommé Premier ministre.
C'est la musique Moyen-Âge, ça.
Lionel Jospin vient d'être nommé Premier ministre et YouTube prend un virage électro-rock avec le single Discothèque que seul Cyril Lacarrière est encore capable d'écouter aujourd'hui sans saigner des oreilles. C'est à la suite de ce traumatisme terrible qu'il décide, le blog Suckin' Rock'n'Roll n'existant pas encore, de partager son désarroi sur le tout premier réseau social qui vient à peine d'être créé. Mais comment s'appelle-t-il ? Friendzone ? Six Degrees ? Ou Face Match ? On est en 1997, vous dites B, vous dites Six Degrees, et vous dites oui, Face Match.
Ouais.
C'est une bonne réponse de Manon Mariani. Pas de surprise sur cette première question. Six Degrees est considéré comme le premier réseau social en ligne créé en 97, soit 4 ans avant Copain d'avant, où Cyril a passé ses nuits en vain à rechercher la trace de Jocelyne Tapineau. L'élu de son cœur quand il avait 13 ans pour voir si des fois elle serait pas devenue une lacarzouze. Il se serait revu, il lui aurait proposé de venir assister en direct à un doux assort pour, je le cite, voir le génie à l'œuvre.
Professeur Pierre Ekberg, il n'a rien à voir avec
Serge Ekberg.
Serge Ekberg, quel que soit son nom.
Sous le charme de son professionnalisme, la magie aurait forcément opéré. Six Degrees, en tout cas, permettait de créer un profil et de se constituer un réseau d'amis, famille, collègues. Le Mathusalem des réseaux sociaux a compté jusqu'à 3,5 millions d'abonnés quand même avant de fermer en 2001. Une sorte de Facebook avant l'heure. Tiens justement, quel a été le tout premier nom de Facebook ? Friendbook, The Facebook ou Face Match?
B.
B. B, ouais.
Ah non, non, c'est A. C'est C, pardon. C'est excusez-moi, B. Non, c'est Face Match.
Heureusement que Manon s'est bien rattrapée, oui, oui. Sinon c'était vraiment très très gênant.
Face
vous,
Match,
effectivement.
The Facebook.
J'avais bien précisé qu'elle a été le tout premier.
Bien sûr.
Le
ouais.
tout premier.
J'avais le deuxième alors.
C'était le bon vieux temps. Zuckerberg ne portait pas encore de grosses chaînes en or et se foutait de la politique. Bon, alors on aurait quand même pu se douter que quelque chose allait vriller vu que Face Match, qui allait devenir Facebook, a été conçu par Zuckerberg pour classer les filles de la fac en fonction de leur physique après avoir piraté leurs photos du trombinoscope d'Harvard. Zuckerberg qui est justement en ligne avec nous pour répondre de son comportement.
Hello, it's Mark Zuckerberg. Hey. I'm sorry I can't be with you today. Oh. It would have been a pleasure. I love Zoom Zoom Zen. It's my favorite show with the Joe Rogan Experience.
Ah, merde.
And L'heure des pros on TV.
Oh, ça nous touche pas. Ça nous touche. Zuckerberg qui s'est pris un râteau en voulant racheter Snapchat pour 3 milliards de dollars en 2013. Il aurait peut-être mieux fait de le racheter en 2011 au moment où l'appli s'appelait encore. Pas de proposition, Manon l'a dit dans le doux Cyril de 16h, mais comme la voix était tellement pourrie...
Peek-a-boo. Peut...
Oui, forcément. J'avais juste oublié que c'était vous cette fois. Oui, c'est juste...
Mais non, c'est Cyril qui l'a redit après. Mais,
oui, c'est vrai, c'est vrai. Peek-a-boo, peek-a-boo, comme coucou, je suis caché, qui est la signification de l'expression peek-a-boo en anglais, initialement dédié à l'envoi de photos compromettantes, sachant qu'Ivan Spiegel, Ivan Spiegel, le fondateur, avait comme loisir, il faut quand même le savoir, de faire boire les filles pour coucher avec. Ah. Manon, ressaisissez-vous, le monde est une jungle. Heureusement, dans cette forêt de masculinistes, il y a Quentin, lui.
Ah.
Le saviez-vous, la vidéo YouTube où Quentin imite Eddie Mitchell a cumulé plus de 32 000 vues, alors que sa sextape, elle, n'a fait que 6 300 vues.
Allez, on accélère. Ouais, c'est dingue. Et on redescend. Ouais, les sensations.
Avec Polo. Mais savez-vous...
Non, on parlait des JO.
Mais savez-vous, savez-vous à quoi était destiné YouTube à son lancement? À publier des petites annonces en vidéo, une sorte de Le Bon Coin? À présenter son parcours professionnel, une sorte de LinkedIn? Ou à essayer de pécho, comme sur Tinder, mais avec un profil vidéo?
Ah. C'est... Ah, j'ai envie de dire c'est, moi. Ah. Non, c'est
Manon, rappelez-nous votre fonction dans cette émission.
Oui, bah, déjà, c'est en deuxième partie.
Vous êtes
en première.
Spécialiste. Bon. Oui, mais les gens, parfois, écoutent toutes les émissions. Vous êtes la spécialiste
oui,
des réseaux sociaux.
Oui, mais si je me suis trompée sur une, c'est pas grave.
Oui, mais quand même, c'est un peu inquiétant. Bonne réponse de Quentin, lui. Oui, réponse C, c'était bien le pitch initial de YouTube en 2005, un site de rencontre reposant sur l'utilisation de vidéos. Cyril avait déjà préparé la sienne. Hélas, ça n'aura duré que quelques jours, puisque très vite, les créateurs décident d'élargir le spectre. La première vidéo uploadée sur YouTube mettra en scène, finalement, Jawed Karim, un des fondateurs, en visite dans un zoo. Cyril avait débandé direct.
Oh.
Mais puisque nous remontons aux origines des réseaux sociaux, parmi ces trois célèbres réseaux, saurez-vous me dire lequel est le plus ancien? Facebook, MySpace ou LinkedIn?
B. C.
Je sais pas.
On a fait une émission sur MySpace.
Ouais, mais 2003,
2003.
Je crois.
C'est C. Non, c'est LinkedIn, je suis sûr.
Ah ouais?
Elle redore son blason. Bonne réponse de Manon. LinkedIn lancé le 5 mai 2003, juste avant MySpace, en août 2003. C'est vraiment joué à peu de choses près. Facebook c'est ayant vrai. Été officiellement mis en ligne le 4 février 2004 à l'adresse The Facebook, on en parlait tout à l'heure. LinkedIn compte 850 millions d'utilisateurs dans le monde, dont notre rédacteur en chef adjoint Pierre Courade, qui au titre de ses spécialisations énumère, attention c'est aussi long que quand il présente un quiz, médias, politique, culture et tintinophilie. Oh expérience, non. Reportage, son, papier sur des sujets d'actualité brûlante ou d'analyse réalisée dans un laps de temps très réduit pour s'adapter aux exigences de l'antenne. Une très belle formation,
vrai.
Oui, une très belle formation qui effectivement 14 ans plus tard lui permet de bien s'adapter à l'exigence de sa chronique 1 minute chrono qui dure en moyenne 2 minutes 30.
Il y a vraiment une histoire
de Manon Mariani.
Merci.
Bravo Manon.
Bravo Manon, pour cette victoire, vraiment merci, difficile, vivement acquise. Comment Snapchat s'y prend pour hypnotiser vos ados? On explore le réseau préféré des jeunes cet après-midi avec la maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Sophie Gel. Sophie, on parlait des systèmes déployés par Snapchat pour fidéliser ses utilisateurs. Est-ce qu'on peut parler pour certains de dépendance? Dans le micro-trottoir tout à l'heure, certains disaient qu'ils passaient la journée dessus.
Oui, oui. Moi, j'ai fait travailler des étudiants aussi qui sont allés enquêter auprès de leurs copains ou de leurs relations, effectivement, et qui disent que soit on n'y est pas, ou presque pas, soit
on peut y est beaucoup.
Soit on y est beaucoup, beaucoup.
C'est parce peut-être que... la fille la plus addictive. Enfin, le réseau social le plus addictif.
Je sais pas. C'est addictif. Enfin, c'est la dépendance est un peu différente. C'est-à-dire que c'est vraiment un réseau sur lequel on est en relation avec ses proches. Et donc, ça peut être du téléphone, ça peut être des appels en visio, ça peut être des échanges. C'est un nombre de notifications qui est extrêmement important. Donc, ça peut être des centaines de notifications par jour pour dire, bah, machin est en train d'écrire, machin est présent sur la plateforme, il a entrouvert ton message. Enfin bref, c'est une surveillance aussi. Enfin, hein, c'est vraiment un esprit de surveillance permanent de l'ensemble des contacts. Et donc, ça occupe énormément, mais TikTok voilà, a d'autres ressorts et peut être je crois qu'en termes de temps passé on est à peu près sur la même chose. Snapchat c'est un peu plus, mais encore une fois parce que c'est les relations avec les proches, et puis TikTok c'est parce que c'est une espèce de scrolling infini et c'est aussi extrêmement envahissant. Je préférais qu'on emploie le terme de envahissant ou intrusif plutôt que addictif, qui fait passer les utilisateurs pour des malades, enfin. Et je trouve que, voilà, c'est pas raisonnable de considérer comme une pathologie le fait d'utiliser des plateformes qui sont légales et pour lesquelles les pouvoirs publics sont incapables de les réguler.
Vous parlez, en revanche, d'un chaos informationnel.
Oui, alors j'en parle pas spécialement pour Snapchat, hein, j'en parle davantage pour Facebook ou pour TikTok. C'est cette manière, et ça c'est Facebook pardon qui l'a initié, cette manière de construire des fils de recommandation où tout s'en mêle. Je veux dire, on a fait en sorte, en particulier dans les médias audiovisuels européens, de bien séparer ce qui est de l'ordre de la publicité, ce qui est de l'ordre de l'information, ce qui est de l'ordre du divertissement, etc., avec des jingles justement. Et sur les réseaux sociaux numériques, c'est la confusion, voilà, c'est la confusion.
Emmanuel Macron veut interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans, vous connaissez bien le sujet, est-ce que c'est indispensable ou c'est une fausse bonne idée du président de la République ?
Moi, je pense que c'est une mauvaise idée, voilà. Pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée ? Je pense que ce qui est important, c'est de tenir bon, et vous savez qu'en ce moment, ce n'est pas évident, de tenir bon sur une régulation européenne de plateformes qui ne sont pas européennes. Donc elles sont soit chinoises comme TikTok, soit états-uniennes. Et on a au contraire un nouveau gouvernement américain qui se fait fort de prôner la dérégulation comme forme de liberté. Donc je pense que ce qui va être important, c'est de tenir là-dessus. Ensuite, dans la nouvelle réglementation européenne, il y a des règles qui sont intéressantes pour les mineurs, et notamment le fait d'interdire le profilage des mineurs, c'est-à-dire d'interdire la personnalisation des fils de recommandation, l'envoi de publicités qui font partie aussi de l'envahissement, du sentiment de voilà d'envahissement sur les fils et sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ce qui est important, c'est de tenir là-dessus. Ça veut pas dire qu'il faut, ça veut pas dire qu'il faut inciter les jeunes à aller sur ces plateformes, mais la réalité, quand on a une réalité qu'on peut mesurer, où on a 90%, enfin pratiquement 100% de jeunes qui ont un smartphone, plus de 90% qui sont sur Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, je trouve ça pas raisonnable de dire on va interdire, parce qu'on va rien interdire du tout. Ce qui va se passer, c'est que si jamais on l'interdisait, on va faire passer simplement ces pratiques du côté de l'illégalité. On interdira à l'école d'en parler, alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut en parler, il faut trouver des espaces de réflexivité. Les jeunes sont tout à fait capables d'abord de nous apprendre ce qui s'y passe, parce que même si on y allait, on ne verrait pas la même chose que ce qu'ils voient eux-mêmes. Donc c'est très important, le rôle de l'école, et j'ai très peur qu'avec ce genre de slogan un peu comme ça, qui peut un peu populiste, hein, dire on va interdire, j'ai peur que ça empêche en réalité l'essentiel.
Le message est passé, le président nous écoute chaque après-midi. Vous écoutez France Inter, il est 16h48. Il n'y a que ça à foutre en ce moment.
Ouais, c'est clair.
Manon, la personne à suivre.
Je vous présente Hashmi Sabi. Il a 29 ans, il est français et c'est l'influenceur le plus suivi sur Snapchat en France, avec plus de 1,4 million d'abonnés. Il a dépassé son concurrent de Perpignan, Nasdas, il y a quelques semaines. Des noms qui ne vous disent sûrement pas grand-chose. Et pourtant, pour la génération Snapchat, ils sont aussi connus que des Squeezie ou des Lena sur YouTube. Leurs concepts sont tout de même largement différents. Hashmi, on dit HMI, a vu sa notoriété exploser fin 2023 quand il a organisé un concours sur Instagram où il offrait des lots prestigieux comme des voitures, des sacs de luxe et des dizaines de smartphones de marques renommées.
Une PS5 avec Fortnite et des AirPods.
Tonton, il a gagné quoi ?
Une Nintendo Switch. Une deuxième PS5. Toi aussi, tu as gagné une Play.
Depuis, c'est devenu son credo. Il a même donné un nom à ses initiatives, les HMI Tours. Il se rend dans des grandes villes pour distribuer des cadeaux à ses fans. Résultat, des débordements ont entraîné l'annulation de quelques dates du HMI Tours par crainte de troubles à l'ordre public. Ce qui est assez fou, c'est qu'on en sait très très peu sur son train de vie, comment il finance ses cadeaux. Car là, on n'est pas sur du sponsoring de shampoing, on est quand même sur un autre niveau de cadeaux. Et puis, HMI s'est aussi fait connaître pour un autre concept, la HMI House, une sorte de Marseillais version smartphone où des célébrités d'internet, surtout de Snapchat, s'affrontent dans des épreuves pour gagner de l'argent. Dit comme ça, ça paraît un peu cheap, mais HMI met les moyens pour que ça marche. La saison 2 s'est par exemple tournée en Thaïlande et la dernière épreuve à Dubaï consistait à organiser un cache-cache géant dans la ville avec les finalistes qui avaient pour mission de trouver de l'argent. À la fin de la vidéo, le candidat gagnant décide de partager la somme avec ses concurrents et HMI décide de faire un geste.
Et après, les autres 25 000 euros qui restent, je vais les partager avec Boussy, Flouki et moi.
Putain, c'est incroyable. Ça veut dire que sur les 50 000 euros, tu vas prendre que 8 000 euros dans ta poche.
Ouais, mais frérot, faut pas être attaché à l'argent.
Il va partager toute la somme. En fait, c'est ça la force de HMI.
Faut surtout être attaché à l'argent, oui.
Avec son grand sourire, son look de Marseillais à la cool et ses concepts, il est arrivé à se mettre une partie de la jeunesse dans la poche. Une jeunesse à qui peut-être les strass et les paillettes de YouTube ou d'Instagram plaisent un peu moins et qui préfère le partage de ses influenceurs sur Snapchat, plus ancré dans une certaine réalité.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Il n'en a jamais parlé à son confesseur, l'abbé Chibrard, qui n'aurait pas compris. Depuis le temps, ces quelques photos que je lui avais envoyées une fois sur Snap, tard dans la nuit, se sont évidemment effacées de son portable, mais pas de sa mémoire. Je sais que parfois, dans la couche conjugale, sous le portrait de Jean-Paul II, alors qu'il est avec son mari, il y repense. Bon, Pierre Courade, jetons un voile pudique pour tout ça. Pierre Courade, bon, c'est jeudi soir, on s'amuse. Comme chaque après-midi, quel que soit le degré de n'importe quoi de mon lancement, vous restez stoïque pour nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Rendez-vous en terre inconnue aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, sauf pour Manon qui snap même pendant l'émission. En moyenne, hein, c'est 15 photos éphémères échangées lors du seul d'où ça sort. Tout ça pour conserver son titre de BFF. Comme quoi, Snapchat, c'est vraiment pas la vraie vie. L'universitaire Sophie Géel, notre Frédéric Lopez du jour, nous a guidés dans les méandres de cette application où l'enjeu est de conserver un nombre de flammes suffisant pour ne pas devenir totalement has-been. Pour cela, il faut envoyer des photos très régulièrement. Un système addictif qui peut faire apparaître des dépendances affectives. C'est l'instrumentalisation des émotions, nous a dit notre invité. Ce qui est inquiétant, c'est que Snapchat est devenu le réseau social préféré de la Gen Z, surtout des filles, avec ses codes et ses spécificités qui ont souvent été imitées. Les photos éphémères, c'est ce qui a fait son succès. L'idée était d'éviter d'envoyer des photos compromettantes qui pourraient être conservées. L'utilisateur est même averti quand le destinataire de sa photo fait une capture d'écran, innovation élaborée après l'usage abusif qu'en faisait, paraît-il, GC. Ça a été ensuite repris par Instagram. Les filtres aussi, le petit chien qui tire la langue, par exemple. Tout ce qui peut rendre kawaii la moindre intervention de Marine Le Pen, c'est grâce à Snapchat, qui, comme la plupart des réseaux sociaux, participe au chaos informationnel.
Merci beaucoup, Pierre, pour ce résumé. L'heure est venue d'écouter à présent l'humoriste préféré de Mohamed Amra, en tout cas son sosie capillaire. Vous pouvez vérifier, suivez-le en vidéo, ça vaut le coup. GC, pour qui Snapchat, comme nous, n'a plus aucun secret.
Ah, bonjour à tous, même à ceux avec qui je fais pas les flammes et qui sont pas mes super BFF. C'est les seuls mots de vocabulaire Snapchat que je connais. Je crois que c'est deux de plus que toutes les autres personnes autour de cette table, parce que elles font leurs expertes depuis tout à l'heure. Heureusement qu'elles ont des stagiaires de 3e qui préparent les fiches, je peux vous dire. Parce que je crois que la seule appli que vous connaissez, c'est Copain d'avant, non ?
Oh, oui.
Je sais que moi, ça peut surprendre que je ne sois pas utilisateur de Snapchat au regard de mon éclatante jeunesse et de ma fraîcheur insolente. Mais je rappelle que si j'ai l'air aussi juvénile, c'est uniquement grâce au teint gris de mes collègues. Oh. Bah, j'ai conscience de n'être qu'un borgne au royaume des aveugles. Après, ce n'est pas complètement vrai. J'utilise un peu Snap, mais d'une façon très personnelle. Voilà, je me connecte uniquement quand mon état est qualifié d'ancien. Très pratique, ces messages qui disparaissent et ces photos. Il en serait peut-être pas là, Slimane, s'il avait utilisé Snap. Ah ben moi, je peux pas sauver toutes les cousines problématiques. Snapchat est classé 9e réseau social. Qui a le temps d'aller sur 9 réseaux sociaux différents? Que je me suis à peine souvenu de mon mot de passe Twitter, ça s'appelait déjà plus Twitter. En revanche, j'espère qu'il y a vraiment une place en enfer spéciale pour les gens qui postent sur LinkedIn. Franchement, tous ces mecs avec leurs chaussures pointues, là, ah, franchement, je peux plus, et qui sont là. On t'a déjà parlé growth hacking? Non, Enguerrand, parce que je baise, en fait. Oh. Ah, d'ailleurs, premier degré, je pensais que les flammes sur Snap, ça voulait dire que ma conversation, elle était hot.
Oui, je vous jure, c'est vrai.
Et comme à chaque fois, bah oui, dans le mille. Et bah, en fait, pas du tout. Ça veut juste dire que les gens, ils m'ont répondu. Ce qui remet pas en cause le fait que je sois une salope, hein. Pas du tout. Mais on avait juste pas besoin d'un emoji pour le prouver. Il suffit juste d'écouter mes chroniques. En vrai, franchement, c'est horrible ce truc des flammes. Ça force les jeunes à s'écrire pour avoir un bon score. Plus t'as de flammes, plus t'es un super ami. Je suis donc apparemment très proche de Manu XXL75. Et c'est quand même fou hein, de tout connaître de ton meilleur ami, sauf la tête. Pour moi, la définition d'un bon ami, franchement, pardon, hein, mais c'était quelqu'un qui te prévenait quand tu puais du bec, hein, ou qui te dit « Alix, t'es le mari de Marine, je vais pas te sucer. Hein. » Ou alors tu largues cette bouffonne. Mais maintenant, l'amitié s'industrialise et les sentiments personnels se calquent à l'intensité d'utilisation d'une plateforme. Une périphrase hein, que ma grand-mère résumerait par « Eh là donc, tout fout le camp. » Il y a un truc qui me plaît sur Snap, c'est la géolocalisation pratique pour récupérer ton grand-père qui a Alzheimer ou ton plan cul. En revanche, un peu chiant de les géolocaliser ensemble. Oh, ce qui est quand même alarmant, c'est que ce sont les 12-17 ans qui utilisent le plus Snap. Je le sais car ma petite cousine s'y est mise et j'ai dû l'accepter en amie car contrairement aux idées reçues, je ne suis pas un monstre. Mais c'est très étrange de recevoir un selfie princesse dans un océan de tub. Bah oui, franchement, ce qui fait que maintenant je dois checker à qui j'envoie mes snaps hein, parce que je trouve que bon, elle est un peu jeune pour réaliser qu'on peut très bien faire du sale à une princesse. Ce qui sera évidemment le titre de ma biographie. Allez, je vous laisse, je dois aller la rédiger et pour tout exemplaire acheté, 3 flammes envoyées.
Merci GC, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Au Palais des Glaces, non, c'est complet, mais il reste des places à Belleville, aux Zèbres de Belleville, ça c'est en septembre. Vous êtes en tournée sinon, hein, les gens trouveront les dates facilement parce qu'on est en retard. Merci Sophie Gel de nous avoir fait découvrir le côté obscur de Snapchat. Zoom Zoom Zen.